La musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'Alaga.
Vive mon grand-mère.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, une émission autour du Japon, d'un autre Japon, une autre vision du Japon avec en illustration musicale ce qu'on appelle la Japanoise, la musique brutiste japonaise. Et nous recevrons également Martine Luzardi pour nous parler de l'exposition Art Brut du Japon à la Halle Saint-Pierre. Et on va commencer par écouter un morceau de Keiji Aino avec son groupe rock Fushitsusha.
Oh, cool.
voilà mes copines.
Fuchitusha. Christophe, c'est comment on prononce Fuchitusha? C'était Keiji Aino.
Keiji Aino avec son groupe rock.
Ok, bonjour à tous, c'est les Oreilles Libres, c'est vendredi, c'est 14h30, donc c'est les Oreilles Libres, c'est Christophe, c'est moi-même, c'est Saoulé, et une invitée, bonjour madame.
Martine Luzardi.
Bonjour.
Directrice bonjour. De la Halle Saint-Pierre et commissaire de l'exposition Art Brut du Japon, dont nous allons parler abondamment dans cette émission. Vous êtes prête? Martine Luzardi vient d'arriver.
Oui.
Bon, bah, allez, on attaque. Peut-être... Pour commencer, la traditionnelle définition de l'art brut et...
Elle n'a pas changé depuis la dernière fois où je suis venue.
Ouais, alors.
La définition n'a pas changé, mais le milieu de l'art brut a un peu changé quand même.
Vous êtes déplacée au Japon, c'est ça ?
Je me suis déplacée au Japon, oui. Mais la définition, non, a pas changé. L'histoire de l'art brut s'enracine dans la définition de Dubuffet, qui date de l'après-guerre et de sa prospection dans des lieux là où on n'attendait pas la création. Et c'était une démarche commune avec les surréalistes. Donc, il a trouvé des formes nouvelles de création, des artistes qu'il a trouvés géniaux dans les hôpitaux psychiatriques. C'est ce qu'on appelé de façon poétique l'art des fous. Voilà. Et il a quand même prospecté un peu plus loin que dans les hôpitaux psychiatriques. Et il a trouvé justement des artistes, évidemment autodidactes, mais des artistes étonnants chez les médiumniques, chez les spirites, chez les visionnaires mystiques, chez des gens un peu reclus ou éloignés des formes culturelles traditionnelles. En architecture, ça serait le facteur cheval, qui a construit pendant toute sa vie son palais idéal, son rêve de pierre qu'il a réussi à matérialiser. Donc c'est une vision aussi très, très poétique de la création. Et cette définition, ce concept art brut était un concept évidemment très subversif, puisqu'il a lié deux notions antinomiques, art et brut. Ce qui est art, normalement, ne peut pas être brut. C'est justement quelque chose qui est élaboré, raffiné, sophistiqué. Il y a une recherche intentionnelle derrière. Et puis ce qui est brut, qui est quelque chose issu plutôt d'un monde intérieur, mais avec toute sa spontanéité et parfois même son inconscience. Voilà. Et ces recherches ont essaimé, et beaucoup de collectionneurs, d'artistes, de passionnés d'art se sont intéressés à ces formes de création dissidentes, hors normes, marginales, et des collections ont commencé à voir le jour, comme par exemple celle d'Alain Bourbonnet. Dans la fabuloserie dans Bourgogne, et puis d'autres musées comme celui qui se trouve à Bègles, qui s'appelle le site de la création franche. Et tous ces musées-là et toutes ces collections-là, du moins, sont pas vraiment des musées, ce sont des collections qui ont été initiées par des artistes. Et on voit vraiment que en Europe et en France, c'est le regard d'artiste qui s'est porté sur d'autres artistes. Et soit par besoin de ressourcement, soit par curiosité, soit par fraternité, on va dire artistique, des artistes ont voulu mettre la lumière et permettre la reconnaissance d'autres artistes qui restaient justement dans l'ombre de par leur statut social ou leur rapport à la création ou de leur origine ou aussi également de leur mise à l'écart pour des raisons aussi bien de santé que psychique ou sociale. Voilà, donc, entre les artistes d'art brut et les artistes que l'on dit singuliers, il y a la même démarche, le même fond commun, mais quand même quelques différences. Donc, les plus radicaux par rapport à la création seraient les artistes classiques d'art brut. Et d'ailleurs, maintenant, on utilise surtout le mot art brut pour faire allusion à la collection de Dubuffet. Et c'est là où l'histoire intervient, c'est que cette collection-là date maintenant de la fin, le début de cette collection de l'après-guerre, donc ça fait un siècle et demi, ce qui permet à l'histoire d'intervenir et de pas figer les choses, mais de les classifier et de les nommer avec un peu plus de stabilité dans les définitions. Et puis tout ce qui est, relève de l'art singulier fait plutôt référence à toutes ces formes de création. Les Américains disent art outsider, mais toutes ces créations qui sont un peu à l'écart des normes culturelles et des normes artistiques. On trouve aussi bien de l'art populaire contemporain que de l'art naïf, de l'art qui n'est pas tout à fait brut, qui se trouve entre l'art brut et l'art naïf. Enfin, tous ces gens qui créent en dehors des sentiers battus pour des raisons personnelles ou des raisons sociales. Voilà. Donc Ça a évolué. La situation actuelle fait que maintenant l'art brut a son histoire. Au mois de septembre, on va ouvrir quand même un musée d'art brut en France. Vous savez que la collection de Dubuffet, la France n'en a pas voulu. C'est pourtant en France qu'elle est née, mais la France n'en a pas voulu. Bon, il faudrait en revenir. C'est assez long, les rapports entre l'État et la création artistique. Ça serait une émission, plusieurs émissions, pour en parler. Mais le fait est que la collection de Dubuffet est partie à Lausanne et d'autres artistes ont voulu combler ce vide et ont initié des recherches et qui ont abouti avec le temps à une collection qui s'appelait La Racine, oui. Et qui était à Neuilly-sur-Marne. Et faute de moyens, ils ont dû fermer leur lieu et ces trois artistes ont fait donation de leur collection. La forme juridique, je ne sais pas, mais en tout cas, ont donné leur collection à Villeneuve-d'Ascq, qui est un musée qui a accueilli non seulement la collection, mais a initié quelques expositions et a décidé d'aménager une aile pour abriter toutes ces œuvres-là. Et ça sera la première fois qu'il y aura en Europe un musée d'art contemporain, un musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Donc ça sera une vision très large de la création moderne et contemporaine, puisqu'elle abritera tout un pan historique de l'art.
Ça veut dire institutionnalisation de l'art brut, quelque part.
Alors, voilà. Non, la question, est-ce que l'art brut... Il y a institutionnalisation de l'art brut qui peut être considérée de deux façons. D'abord, d'un point de vue positif, c'est la reconnaissance, enfin, de l'art brut, qui permet à ces œuvres-là, à ces artistes, d'être traités à égalité avec l'art savant. C'est-à-dire on reconnaît leur valeur artistique, pas seulement d'un point de vue marginal, mais on leur offre les cimaises d'un musée, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans le patrimoine commun. Et c'est un bond énorme de qu'elles puissent être jugées de la même façon et hissées au même niveau que des œuvres qui sont déjà rentrées dans la reconnaissance et dans l'histoire de l'art. Donc c'est l'entrée aussi dans l'histoire de l'art. De l'art brut, avec évidemment son danger, puisque l'art brut n'est pas quelque chose, c'est-à-dire l'histoire de l'art brut est historique. Enfin, il y a une histoire de l'art brut. Mais les œuvres d'art brut ne peuvent pas rentrer comme ça dans l'histoire de l'art, puisqu'elles n'appartiennent à aucun mouvement. Elles sont en dehors de la culture, justement. Leur histoire peut être analysée d'un point de vue historique, parce que si on analyse une culture, on analyse ce que la culture produit aussi comme marge, ou ce qu'elle exclut. En même temps qu'on voit ce qu'il y a de culturel, on voit ce qu'il y a d'anticulturel ou de contre-culturel. Alors là, l'art brut a son histoire. Mais les œuvres elles-mêmes ne peuvent pas s'inscrire dans l'histoire de l'art de la même façon que n'importe quelle autre œuvre, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans l'histoire des styles. Elles ont toujours plus ou moins opéré dans la marge de la culture-là, c'est-à-dire sans un rapport conscient ou direct avec cette culture, avec la culture savante. Elles ont été influencées. Personne n'est indemne de culture. Donc c'est plus ou moins. Mais ces artistes-là ne se sont jamais souciés de la promotion de leur œuvre, de la reconnaissance de leur œuvre, et n'ont jamais altéré leur œuvre pour avoir une meilleure réception ou pour recevoir une gratitude quelle qu'elle soit. Voilà.
Je crois que c'est simple. On l'a pas dit pour les auditeurs qui ne sont pas très au courant. L'art brut se distingue par le fait que alors j'ai du mal avec le mot artiste, mais les créateurs, on va dire, n'ont pas, pour la plupart, de connaissances de l'histoire de l'art, de culturel, quoi.
Non, ils l'ont comme les artistes d'art populaire l'ont. C'est-à-dire qu'ils sont... vous voyez le facteur cheval. Toute son architecture est influencée par plusieurs cultures. Les expositions universelles à cette époque-là étaient l'occasion d'être confrontées ou de recevoir les images de partout, du monde entier. Et c'était un moment très important de brassage des cultures. Donc il y avait cette influence-là. De toute façon, la culture savante s'est toujours répandue dans les régions, dans les populations, à travers. Alors maintenant c'est la photo, mais avant c'était pas la photo, c'était la gravure ou les reproductions, sous toute forme que ce soit. Donc la culture savante a toujours été diffusée. Mais après, l'art populaire a réinterprété, s'est approprié cette culture, en a fait autre chose. Donc le rapport avec la culture savante est un rapport chaque fois pour chacun des individus très, très personnel. Et puis il y a les conditions de vie, ceux qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques, maintenant on ne reste pas toute une vie dans un hôpital psychiatrique. Il faut penser qu'Aloïse a passé la plupart de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Donc l'entrée de la culture et se faisait de façon beaucoup plus rare. Alors elle avait son bagage avec elle quand elle est rentrée, mais après elle a fait avec ça. Donc c'est en ce sens-là que on peut parler de gens plus ou moins indemnes de culture, et c'est le rapport à la culture qui est un rapport totalement différent aussi. Et puis ce sont des gens qui créent vraiment, quand on dit par nécessité intérieure, là c'est plus que de la nécessité intérieure, on s'en rend compte avec le temps. C'est un rapport entre eux et eux-mêmes. Ils créent pour sortir quelque chose qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est vital pour eux de le garder enfermé en eux. Ça pourrait les faire étouffer. Donc ils ont besoin de le sortir, mais c'est pour eux-mêmes. C'est vraiment une histoire entre eux et eux. Et même, pour certains, l'intervention extérieure dans le processus créatif, dans leur propre processus créatif, serait presque comme une atteinte à leur personne, à leur personnalité, ou presque comme une sorte de démembrement ou de viol. Ils pourraient même arrêter de créer.
Oui, oui. Bon, je propose qu'on écoute un petit morceau de musique, et après on parlera plus spécifiquement de l'art brut japonais.
Oui.
Radio Libertaire 89.4. Christophe.
Alors voilà, on a pas du tout écouté Keiji Aino, mais Ijo Kaidan. On reviendra sur Ijo Kaidan plus tard dans l'émission. Parlons de l'art brut japonais. Martine Luzardi, vous êtes allé au Japon, j'imagine, pour rencontrer des créateurs ou des institutions.
Oui, oui. D'abord, le Japon est venu à moi, puis après, je suis allée au Japon. Oui, bon, ça, c'est une exposition qui réunit 63 artistes et près de 1000 œuvres. Bon, 1000, ça paraît énorme. Il y a des petits dessins, il y a des petits formats, puis il y a des œuvres plus grandes, il y a des dessins, des sculptures, des peintures, des assemblages, des photos d'environnement. Donc, c'est vrai que j'étais très tentée d'aller voir. Alors c'était aller rencontrer chaque artiste, ça aurait pris plusieurs années, et puis en même temps c'était difficile, mais j'avais pas, quand je fais un peu l'historique hein, d'exposition, quand j'y suis allée, je suis allée un peu comme ça à l'aveugle, et pour construire petit à petit l'exposition. Et je me suis rendu compte assez vite qu'il était difficile d'aller rencontrer chaque artiste. Je savais pas qu'il y en aurait 63, peut-être moins, peut-être plus. Donc on avait trouvé une solution qui était bien. C'était, en tout cas, je voulais choisir chaque œuvre, chaque artiste et chaque œuvre. C'est qu'on réunisse le plus d'œuvres possible dans un endroit, dans un musée, que je sélectionne d'après les œuvres, c'est-à-dire ce que je trouvais des œuvres fortes, des œuvres moins fortes, et puis des œuvres originales, des choses qu'on n'avait jamais vues, des choses qui étaient pour moi typiques du Japon, où on trouvait tout d'un coup la culture japonaise là-dedans, et puis des œuvres où on ne pouvait pas soupçonner qu'elles avaient été faites par quelqu'un de japonais. C'était ça qui était intéressant, c'est-à-dire permettre à cette exposition de poser plein de questions et tenter d'y répondre. Donc j'ai sélectionné comme ça des œuvres. Certaines, les Japonais ont été sûrs que j'allais les choisir, et puis d'autres, ils ont dit « Ah bon, vous choisissez ça ?» Ils ne comprenaient pas très bien pourquoi. Évidemment, moi, j'avais mon propre regard. Mmh. Et puis, j'y suis allée une fois, deux fois, et puis, quelques temps après, il a fallu travailler sur l'exposition, commencer à rédiger les biographies qui m'étaient arrivées en japonais, en anglais, et puis en français, des traductions qu'il fallait refaire. Et là, surprise, parce que moi, j'étais partie voir de l'art brut japonais, avec la définition classique occidentale de l'art brut. Et je vois que certains, un était trisomique, l'autre autiste, quelques psychotiques très peu, mais en fait, la plupart étaient des handicapés mentaux. Et je me suis dit, ah, zut alors, zut, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je ne l'avais pas vu dans les œuvres. Et je me dis, ça, il faut que ça reste. Cette impression que j'ai vue, c'est-à-dire ce que je n'ai pas vu, parce que ça ne se voyait pas. On ne voit pas que quelqu'un... Du Buffet disait pour les psychotiques, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des malades du genou. Mais là, il n'y a pas plus d'art des handicapés mentaux que d'art des malades du genou, que d'art des fous. Donc, il fallait respecter ça, qu'en effet, il n'y a pas d'art des handicapés mentaux. Donc, dans l'exposition, vous avez vu, on rentre, il n'y a pas de biographie. Si on veut connaître quelque chose sur l'artiste, on achète le catalogue.
C'est la raison. Parce que moi, ce que j'aime bien à Saint-Pierre, d'habitude, c'est qu'il y a, lire l'histoire des gens, parce que ce n'est pas seulement...
Oui, mais justement, là, il y a très peu d'histoires. Ouais. Ce sont, alors, beaucoup de ces artistes-là sont dans des institutions spécialisées, suivent des ateliers d'art-thérapie, ou vont dans des ateliers... et créent chez eux. Donc il n'y a pas une règle générale, tout ne vient pas d'ateliers d'art thérapie. Tous ne sont pas institutionnalisés, mais en tout cas tous, pratiquement la majorité d'entre eux sont des handicapés mentaux. Et je savais qu'en mettant les biographies, parce qu'on sait, pour certains on sait très peu de choses de leur style de vie, le handicap n'est pas quelque chose au Japon que l'on va mettre sur sa porte, c'est quelque chose plutôt qu'on avait l'habitude de cacher, qui posait un problème pour les familles. Et c'est à travers l'art qu'on a voulu revaloriser les personnes handicapées mentales et leur redonner une dignité. Donc c'est vraiment une volonté politique, une volonté et une démarche de santé mentale, mais pas une démarche artistique au départ. C'était la grande différence avec l'Europe, et je voulais faire comprendre ça, mais on ne pouvait pas le faire comprendre, je pense, dans l'exposition, en mettant tout de suite en affichant la biographie, et dans la biographie, le handicap. Parce que, ça je le sais par expérience, les gens ont besoin déjà d'avoir des connaissances avant, et du coup, ils ne voient pas par eux-mêmes, ils ont une sorte de préjugé, c'est inévitable, et ils auraient pensé, ah, ils dessinent comme ça ou comme ça, parce que ce sont des handicapés mentaux, ou ah, ils auraient fait un lien entre ce qu'ils voyaient et le handicap, alors qu'il n'y en avait pas, puisque moi-même, qui ne suis pas une spécialiste quand même d'un peu, mais je crois que je commence à m'y connaître un petit peu, je ne l'avais pas vu. Alors je me dis, ce que moi je n'ai pas vu, d'autres ne vont pas le voir, mm-hmm. alors qu'ils ne le voient pas, mais uniquement parce qu'on met une étiquette handicap mental. Et ça aurait été, je pense, rabaisser l'exposition à un niveau qui n'était pas celui que je voulais lui donner, puisque ce sont des œuvres qui sont des œuvres d'un intérêt, je veux dire, universel. Ce sont des œuvres artistiques à part entière, et il n'y a rien dans ces œuvres-là qui font dénoter un quelconque handicap. Voilà.
Mais il n'y a aucun artiste exposé qui ne soit pas atteint de troubles mentaux ?
Si, il y en a quelques-uns.
Oui, quand même.
Il doit y en avoir. Oui.
Je pense notamment à... J'ai retrouvé son nom. Ejiro Miyama. Celui qui fabrique ses chapeaux, là, qui se balade sur son vélo.
Ah non, c'est un original, c'est un facteur cheval. Voilà, c'est pas un trouble. C'est une personne qui a travaillé durement toute sa vie avec des tas de métiers... le tout ouvrier, manuel, enfin c'était pas un homme à tout faire, mais il a eu des tas de petits métiers en travaillant aussi dans des endroits assez sordides. Il habitait dans des endroits difficiles, et puis là, maintenant il habite dans une toute petite chambre. Mais un beau jour, il s'est promené dans la rue, et puis il lui a pris comme ça un truc totalement fantaisiste de mettre un bol de nouilles renversées sur sa tête, comme ça. Il a eu une sorte de pulsion, mais qui n'en a pas. Et puis les gens se sont mis à rire, et il a vu le rire des gens, ça lui a fait plaisir. Il a vu les gens rire, pas les gens se moquer, et il s'est dit, je vais maintenant faire rire les gens. Donc il a travaillé à partir de ça. Il a commencé à fabriquer des chapeaux avec des objets de récupération, des objets qu'il trouvait aux puces, des poupées, tous ces petits jouets ou pour enfants ou comme ça, des objets que les gens ne veulent plus. Il a fabriqué des chapeaux à étage, et puis il a enfourché son vélo. Il a mis aussi des petits objets comme ça, des poupées qui pendaient sur son vélo, et puis se promenait dans la rue. Les gens le regardaient et souriaient, ça amusait. C'est-à-dire, il avait l'impression de rendre les gens, de les faire évader d'eux-mêmes et de leurs soucis quotidiens. Il dit, voilà, maintenant c'est ce que je vais faire. Je vais apprendre aux gens qu'on peut oublier ses soucis quotidiens, qu'on peut être heureux malgré une vie dure. Alors, on peut dire que c'est un original, que c'est un fou, mais à quelle folie on fait allusion ?
Non, c'est juste un original. Ce que je voulais savoir également, c'est donc dans l'exposition, vous nous apprenez que la grande majorité sont atteints de troubles mentaux. Est-ce que l'art brut au Japon existe en dehors du handicap mental ? Est-ce que vous avez découvert des lieux où c'est l'art brut au Japon, c'est uniquement cette définition-là, je veux dire ?
Non, non, on peut pas dire que l'art brut au Japon c'est uniquement du handicap mental. Mais disons que pour l'instant, les recherches se sont et les gens qui sont allés chercher sont allés dans les ateliers d'art thérapie. Alors ça ne veut pas dire que l'art brut au Japon c'est le handicap mental, c'est les recherches sont allées là. De même que nous, il y a des ateliers d'art thérapie et il y a du handicap mental en France, mais on hésite à mettre le handicap mental, les artistes handicapés mentaux dans l'art brut, surtout que dans les ateliers d'art thérapie, c'est un accompagnement pour, ce sont pas des ateliers, ça dépend aussi des ateliers, c'est plus ou moins dirigé, ça permet justement à ces personnes atteintes de troubles de pouvoir sortir quelque chose d'eux-mêmes, de pouvoir extérioriser leur sentiments, enfin d'être mieux avec eux-mêmes. Et ça donne pas forcément de l'art, ça se fait à travers l'art. Mais ça veut pas dire que les œuvres qui sortent, c'est de la thérapie par l'art. Ça veut pas dire que toutes ces œuvres qui sont faites dans des ateliers d'art thérapie sont de l'art et qu'elles peuvent être regardées avec on essaye de les regarder, enfin on les regarde avec un œil esthétique, mais la conclusion n'est pas forcément c'est une œuvre d'art. Voilà. Alors peut-être qu'au Japon il y a eu un très grand intérêt pour cette population là du fait de cette volonté politique de réhabiliter ces personnes handicapées. Donc il y a plus d'ateliers qui ont été, il y a eu plus de prospection. Et du coup, on a trouvé des artistes qui étaient des artistes avec de grandes qualités artistiques. Mais il y a aussi des productions qui sont pas bonnes. Vraiment, le génie créateur, c'est la chose la mieux répandue et la plus égale qui soit. Il y a des gens qui sont des géniaux, aussi bien chez les handicapés que chez les fous, que chez les gens tout à fait normal. Ça, c'est la chose. C'est vraiment la leçon de l'art brut, c'est que si la société produit des différences et met les gens dans les marges ou pas, la création, elle réunifie tout ça et ne hiérarchise pas. C'est-à-dire, la hiérarchie, quand on met une hiérarchie, elle est sociale. C'est-à-dire, on dit handicap, on dit folie, et c'est là où on met une séparation et une différence et une exclusion. Mais dès qu'on dit, on les retrouve tous ensemble et qu'on voit que c'est des artistes, alors il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de hiérarchie. La hiérarchie, elle est seulement quand on les nomme, elle est sociale. Mm-hmm. Mais l'œuvre elle-même ne fait pas de hiérarchie. C'est uniquement une bonne œuvre, une œuvre qui vous touche, une œuvre qui vous parle, une œuvre tout d'un coup qui est une forme nouvelle dans le monde. Alors on s'interroge, elle est porteuse de sens, et ça, on le trouve partout.
Voilà. Moi, je pense dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on voit des maisons décorées avec des coquillages et tout ça. Je veux dire, c'est pas forcément. Évidemment, du Buffet, il s'est également intéressé aux fous. Mais on ne s'intéresse pas aux ouvriers, aux gens. Je pense, j'avais vu à la Saint-Pierre, je ne me rappelle plus de son nom, un balayeur qui était sourd, qui faisait des dessins absolument extraordinaires de cathédrales imaginaires.
C'est Storr.
Ah, on avait retrouvé
Marcel Storr. C'est un jardinier au bois de Boulogne.
Voilà, on avait retrouvé ça sous sa nappe quand il est mort. Enfin voilà, donc ce mec-là, il n'était pas spécialement fou ou quoi.
Non, il n'était pas fou. C'est sa femme d'ailleurs qui a gardé tout ça. Mmh. Puis quand il est mort, elle a osé le montrer à quelqu'un. Ouais. Mais c'était. Alors, est-ce qu'il était fou? Je veux dire, ça aussi, la folie, c'est quelque chose de culturel. À partir du moment, c'est un fou. Tant qu'il n'est pas dans un hôpital, il n'est pas fou. Mm-hmm. C'est quand on l'exclut qu'on l'appelle fou. C'est ça qui est terrible. Mm-hmm. On est dans Foucault, là-dedans. Mais l'arbre brut révèle ça encore plus. Ouais. Et actuellement, c'est vrai que l'arbre brut est à la mode. Mais c'est on dit comme ça, il est à la mode, mais derrière cet intérêt pour la brute, c'est autre chose que de la mode. C'est qu'il répond à une attente qui est un besoin pour les gens, les individus, de retrouver du sens, de se raccrocher à quelque chose qui n'est pas de l'ordre justement que du rationnel, du matérialisme. Est-ce que c'est un besoin de spiritualité ou pas? Peut-être aussi.
Moi, je dirais peut-être le besoin de retrouver leur créativité. On a tous un potentiel créatif et qui, bon, on en parlait en antenne par l'éducation nationale qui nous brime pas mal là-dessus.
Il n'y a pas que l'éducation nationale.
Il n'y a pas que l'éducation nationale. Mais moi, je pense qu'à la base, on a tous un potentiel créatif qui nous est plus ou moins subtilisé par divers moyens. Et je ferai un parallèle un peu oiseux, mais je vois le succès de ces émissions. Genre la Star Academy, toutes ces conneries-là, c'est un peu, tout le monde peut être chanteur, quoi. Bon, là, c'est le côté mercantile et pas très ambitieux, je dirais. Mais quand même, on fait appel à ça. On fait appel à tout le monde. Tout le monde a en soi.
Mais tout le monde est créatif. Tout le monde a en soi un potentiel créatif, mais tout le monde ne va pas le réaliser de la même manière, et tout le monde ne va pas devenir un artiste. Mais tout le monde est dans ce processus. On a tous un processus créatif en permanence. C'est-à-dire une relation à deux, c'est aussi une création. C'est-à-dire une relation quelle qu'elle soit, à deux, à trois ou un groupe. Il faut construire la relation avec le groupe. Donc la construction de quelque chose, c'est un processus créatif. Le processus après créatif dans le domaine de l'art, c'est encore autre chose. Et c'est peut-être celui qui est le plus difficile à mettre, je veux dire, à nommer et aussi à comprendre, parce qu'il est entre l'intérieur et l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur de soi et puis le monde extérieur, entre l'individu et puis le collectif, entre le subjectif et puis l'objectif. Donc il est à la croisée toujours des deux mondes, entre l'intime et l'extime, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le soi et les autres, entre je et on et nous. Et ça, comment certaines personnes arrivent justement à mettre ça en forme et à nous toucher, non seulement nous toucher, mais à nous faire comprendre le sens de ça, c'est-à-dire à nous faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer, et avec justement une forme, parce que c'est la mise en forme qui est importante aussi en art et qui nous touche aussi. C'est la construction et qui peut passer par une déconstruction aussi, et puis après une réélaboration de cette mise en forme.
Moi, je pensais également au fait que on voit souvent, on va dire, les fous. Dans l'art brut, il y a pas mal de gens à la retraite. C'est-à-dire, je pense à la chanson également, hein, des gens qui sont mis à chanter à 60 ans, une fois leur situation sociale écoulée, finie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi avec le fait d'être libéré justement d'une pression sociale, d'un rôle qu'on a?
Oui, il y a beaucoup d'artistes, de personnes, quand elles sont à la retraite, elles retrouvent du temps pour elles-mêmes, donc elles créent. où c'est un besoin qui était là, mais qui n'avait pas pu trouver ni le temps, ni les moyens, ni c'était un désir à l'intérieur de soi, mais qui n'avait pas pu éclore.
Voilà.
On va dire. Donc la retraite aussi est un moment pour c'est l'occasion pour ces personnes-là d'exprimer ce jardin secret. Mais c'est pas forcément après de l'art brut. Ce sont des gens, ça peut être une occupation, ça peut être. Oui. C'est pas forcément de l'art. Moi, je vois, j'ai beaucoup de sollicitations. Il y a le meilleur et le pire. Il y a. Voilà.
Bah, c'est sûr, oui. Peut-être on va écouter peut-être Kedjaino, alors, ce coup-ci. Kedjaino avec à la guitare et Eric Cordier.
C'était Kedjaino et Eric Cordier, et c'était en Belgique, pas plus tard que le 5 juin 2010.
Très bien. Voilà. Alors moi, je voudrais demander à Martine Luzardi, on a une idée du Japon, de l'art japonais, quelque chose d'assez, pas très folichon, je pense aux estampes, des images comme ça qu'on a. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapport entre les créations d'art brut et cette culture-là, ou bien est-ce qu'il y a plus de rapport entre l'art brut japonais et l'art brut n'importe où dans le monde ?
Non, il y a plus de rapport entre l'art brut japonais et l'art brut tout court.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de japonais dans les œuvres qui sont présentées ? On le disait tout à l'heure, on ne peut pas être indemne de culture. Donc il y a des traces de culture. C'est comme si c'était une toile de fond sur laquelle l'individu va permettre à son propre fond, à lui, de s'exprimer. Alors c'est vrai, plus une œuvre est figurative, plus on retrouve des traces du Japon. Les architectures, ce n'est pas des petites cases en Afrique. Mm-hmm. C'est des temples, ce sont des pagodes. Donc là, on retrouve les villes lorsqu'on montre des villes, on montre des villes grouillantes, un peu comme Tokyo. Donc plus c'est figuratif, plus on retrouve des traces de la culture, enfin l'atmosphère japonaise. Les écritures, évidemment, ce sont des écritures japonaises, même les deux formes d'écriture japonaise. Donc là, on comprend tout de suite qu'on est dans une autre culture, dans un autre monde. Et puis après, on retrouve des artistes, on voit il y a des réminiscences. Quand on connaît un petit peu l'art brut, pour certains, ça nous évoque un Bill Traylor aux États-Unis, cet esclave noir qui s'est mis à crier à la fin de sa vie. Il y a des personnages comme ça, un peu schématiques, aériens. Ce sont des figures humaines, des personnages, mais ils ont l'air comme ça de flotter dans l'air. Alors, c'était pas chez l'artiste le besoin de représenter le personnage, mais une certaine perception de la figure humaine qui est un sentiment plutôt intérieur. Et là, on le retrouve dans tous les artistes du monde entier. Quand c'est une forme abstraite, alors évidemment, c'est une forme abstraite et toutes les formes abstraites se ressemblent. Mais ce qui est frappant, c'est de revoir la prolifération, le côté obsessionnel qui est toujours présent dans toutes les œuvres d'art brut, la prolifération, ne pas pouvoir s'arrêter de dessiner, que ce soit une écriture ou aussi le rapport entre l'écriture et les dessins, de mêler les deux, c'est-à-dire sur une surface d'inscription, l'image a autant d'importance que l'écriture. Alors que pour certains, enfin dans notre culture occidentale, on sépare les deux, l'image et le texte, alors que dans l'art brut, les deux reviennent ensemble, les deux sont très liés. Il y a pas de on passe d'un monde à un autre, comme s'il n'y avait pas de séparation dans ces deux formes d'expression. Alors là, on le retrouve au Japon, aussi bien que qu'ailleurs. Il y a aussi des images qui sont presque des images archétypales. Alors là, on a tout de suite les références qui reviennent. Alors la figure humaine, c'est vrai que les traits sont des traits japonisants.
C'est-à-dire
japonisant, j'ai pas dit japonais, j'ai dit japonisant. Et puis il y a quelque chose qui intervient qui est autre, c'est le même qui revient tout le temps, c'est-à-dire l'autoportrait, mais c'est l'autoportrait se décliné de plusieurs façons, c'est-à-dire qu'il y a une image, une idéalisation comme ça, et c'est l'autoportrait qui sert à retrouver cette image idéale. Alors l'image idéale, qu'est-ce que ça peut être, un héros, mais il y a une sorte se rendre soi-même, héroïsation de soi-même, qu'on retrouve beaucoup chez les artistes d'art brut, et cette démarche-là, on la retrouve, et on voit le processus, c'est-à-dire c'est la même personne, mais un peu, c'est soi, mais exagéré, ou magnifié, ou défiguré, et les traits de cette culture japonaise, elle est accessoire, elle est anecdotique. Donc est-ce que c'est ça qui est peut-être intéressant puis en même temps dérangeant, c'est que on voudrait retrouver du Japon, on le retrouve et en même temps on le retrouve pas. C'est ces deux sentiments qu'il faut supporter en même temps. Le Japon est là et il n'est pas là. Chaque fois qu'on a l'impression de s'en approcher, il nous échappe.
Il y avait le thème, ça voulait en parler en antenne, mais moi ça m'avait frappé également des trains, des bus. Moi je suis jamais allé au Japon, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui les obsède, ça, les
transports. Vous en avez partout, c'est plus vigne avec ses autocars et tout. Mais ça dépend, quand vous êtes dans la grande ville, c'est vrai que c'est une ville grouillante, il y a des trains, le métro, c'est bruyant, les gens sont toujours pressés, il faut qu'ils aillent travailler, ils ont peu de temps libre, peu de loisirs, ils sont dans les moyens de transport tout le temps. Tokyo c'est comme ça, c'est une ville, il y a des voitures, il y a des taxis, il y a le bus, il y a les trains.
L'idée que je me fais de Tokyo, c'est un truc grouillant, super. Il y a un manque de place, beaucoup de gens dans des endroits.
Ces artistes-là n'habitent pas à Tokyo.
Oui, c'est ça. Ils sont en institution, en plus.
Tokyo, c'est une ville à part au Japon. Toutes les villes ne ressemblent pas à Tokyo. Il y a des villes qui sont des villes pas loin de la campagne, où on ressent ce charme, justement, de la campagne, cet éloignement du bruit du monde. Mais c'est plutôt. C'est peut-être aussi le choix qui fait que on a choisi des œuvres où ont montré le côté obsessionnel d'une personne pour les trains, pour le... c'est plutôt ça qui était... C'est-à-dire que...
Les poitrines
c'est
de femmes également, il y en a un avec
oui.
ses...
Oui.
Des céramiques, c'est très beau d'ailleurs.
Oui, oui, lui il a été... Il a, son truc, c'était de c'était pas sculpté, oui, de mouler des bustes de femmes et chaque fois avec des formes différentes. Ouais. Évidemment, ça fait rire les enfants, ça. Mais c'est très poétique. C'est pas, c'est ni érotique. Justement, c'est pas érotique du tout. Ouais. C'est absent. L'érotisme devrait être là, mais c'est pas ça qu'il a montré. C'est la forme, ces formes différentes. C'est presque de l'anatomie où le c'est plutôt charnel, mais pas érotique du tout. On sent que c'était son truc, il aurait pu choisir autre chose, les yeux, mais il a choisi les seins, mais c'est fait avec tellement enfin, de poésie, mais de drôlerie, que voilà, on est touché parce qu'on n'a jamais vu ça. Voilà.
Mais c'est vrai que ce qui, je trouve, est spécifique à cette exposition, on a vu Chaumeau précédemment, on voit qu'il touche à tout, au cinéma, à la sculpture, à la peinture, Et là, les gars, ils ont vraiment une obsession, et c'est que ce soit les drapeaux ou les petits robots, il y a toujours un truc comme ça.
Oui, alors c'est ça la singularité, c'est que chez ces artistes-là, non seulement ils sont singuliers, mais ils ont leur propre singularité. Ouais. Chaumeau touchait à tout. Ouais. Il pouvait peindre. C'était un architecte. Il avait décoré ses maisons. Enfin, il avait créé une atmosphère dans la forêt. C'était le fouillis. En même temps, tout ça était tout à fait cohérent. Il faisait des bois brûlés. Enfin, il prenait les bois. Il avait aussi cette pierre, je ne sais plus, qui sculptait. Et puis, il faisait tous ces personnages. Lui qui était un solitaire et un presque un ermite. En fait, il avait peuplé sa forêt de personnages à qui, j'imagine, il parlait. Donc, il avait son propre monde intérieur. Il préférait être seul, mais il est...
Il écrivait également des poèmes.
Il écrivait aussi. Il a touché à tout. Et puis là, on a des artistes qui sont monomaniaques, presque. Ils vont jusqu'au bout de leur obsession. Donc, ça montre aussi qu'on a plusieurs façons d'être singulier. Et que il la défende vraiment jusqu'au bout. Mais Chaumeau, c'était totalement à part. C'était un rebelle, un contestataire, un subversif, qui avait une formation artistique et qui avait une volonté de s'opposer à l'autre. Tandis que beaucoup de ces artistes-là, ils s'opposent, mais d'une autre façon et d'une façon beaucoup plus, je veux dire, touchante et beaucoup plus radicale. À mesure où ils ont leur processus créatif et que si on intervient dedans, ils peuvent arrêter de créer.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est une leçon qu'ils ne veulent pas vous donner. Ils n'ont pas décidé de vous donner une leçon. C'est une leçon que l'on reçoit. Ils ne vous la donnent pas, mais on la reçoit quand même. Parce que c'est la volonté toujours. Il y a le marché de l'art, il y a le système de l'art où il y a un rapport qui est évident entre l'artiste, le musée, le critique, le spectateur. Il y a celui qui crée, celui qui regarde. Et il y a un dialogue qui s'établit entre les deux. Eux, ils créent et celui qui regarde ne les concerne pas.
Alors, moi, j'entends bien qu'ils ne soient pas concernés par le marché de l'art, et tant mieux, et nous ici non plus, on n'est pas très concernés par ça. Pour autant, est-ce qu'ils sont quand même indifférents au regard du public? Par exemple, s'il y a des gens qui viennent, qui apprécient leur truc, est-ce qu'ils sont touchés ou vraiment ils s'en foutent
Mais ça, c'est une question aussi d'individu. Certains sont touchés, d'autres ne sont pas touchés. Certains, oui, sont touchés, mais ils ne sont pas touchés. Comme vous savez, c'est extrêmement difficile de faire de l'empathie, là. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à leur place, c'est ça. Vous pouvez essayer de comprendre, mais vous ne pouvez pas vous mettre à la place, enfin penser comme un autiste ou comme un trisomique, on ne l'est pas. Donc on peut pas changer les rôles. Alors on peut juste supposer, faire des hypothèses, imaginer, mais on peut pas penser comme eux. Alors déjà ça met une barrière et ça vous empêche de vous on a envie de s'approprier, mais en tout cas on peut pas s'approprier sa façon de ressentir parce qu'on peut pas ressentir comme lui. Donc il faut accepter la mise à distance qu'ils nous imposent. C'est eux qui nous mettent à distance, c'est pas nous qui les mettons à distance. La société les met à distance en mettant dans des hôpitaux psychiatriques, tout ça. Mais ils nous mettent à distance d'une autre façon. C'est qu'on ne peut pas ressentir ou penser ce qu'ils ressentent. Alors, leur rapport à la création, le regard que les autres posent sur leur œuvre, l'effet que ça leur fait, on ne le sait pas mm-hmm. vraiment, et il faut accepter aussi ce manque. Mmh. Il faut accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre peut-être, de ne pas avoir la réponse. Mmh. On a la question, et au lieu d'avoir la réponse à la question, et même plutôt se contenter de reposer une autre question. C'est-à-dire chercher toujours le sens un peu plus loin, un peu plus loin, et se satisfaire de l'absence de réponse, et remplacer ça par de nouvelles interrogations. Et évidemment, c'est difficile, parce que notre système éducatif, dont vous parlez tout à l'heure, c'est justement de poser des questions et d'avoir des réponses. Ah oui. Et là, on est dans un autre domaine, on est celui de la création. Et que là, on peut accepter justement de ne pas avoir forcément de réponse, et que l'individu peut rester un mystère. Et l'art brut est ça, peut-être, parce qu'on fait toutes les hypothèses d'interprétation des œuvres, mais on ne saura jamais la vérité. Et accepter qu'il y a un mystère, comment dire, qui est inhérent à l'œuvre, qui est là-dedans, que tout est une série d'interprétations, mais même pour les autres, les œuvres d'art aussi. Mais souvent, l'artiste participe à l'interprétation de l'œuvre, tandis que l'artiste d'art brut, il reste dans son monde, il ne participe pas forcément, et rarement, à l'interprétation de son œuvre, et donc il reste une part d'inconnu, une part de mystère qu'il faut accepter. Et ça nous renvoie justement à ce manque que l'on a, souvent on a du mal à accepter, mais là, il nous est imposé, et c'est comme ça.
Vous avez eu des contacts directs avec des créateurs?
Mais il y en a 22 qui étaient là le soir du vernissage.
Ah, vous dites 22.
22, plus d'une vingtaine qui étaient là. Et bon, c'est vrai que c'était touchant. Mais bon, ils sont ce qu'ils sont. Beaucoup, il y avait certains des trisomiques, des autistes qui étaient là. Ils traversaient l'exposition et leur œuvre avec ce qu'ils sont. Donc, ce qu'ils ont ressenti, c'est très difficile de le savoir. On sait ce que nous on ressentait, mais eux, pas forcément. Par contre, il y a des petites anecdotes que je raconte souvent, celle-là, mais c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est des leçons qui nous sont données. Celui qui fait les pyjamas, il aime dormir il aime porter ce qu'il aime le plus et ce qu'il aime le plus manger. Alors, il aime les œufs de saumon, il aime les beignets de courge, il aime les oursins, il aime les épinards. Donc, il dessine sur son pyjama ou sur ses slips les beignets, les épinards, les oursins, les œufs de saumon, et il dort avec. C'est presque magique comme pensée, parce que il peut pas dormir avec les aliments, donc il les dessine et il dort avec. C'est une façon qu'il a réussi à faire, c'est une façon magique, c'est-à-dire mais créative, de dormir avec ce qu'il aime le plus. Et on voit aussi le langage, c'est-à-dire il a mis il a concrétisé ce langage-là. Et puis, il y a des gens qui sont, comme moi, comme vous, qui sont arrivés au Japon et qui ont dit « Ah, ces pyjamas, comme ça, c'est une œuvre d'art, ça. » Ils les ont exposés. C'est devenu, il a gagné des prix avec, et c'est devenu un artiste reconnu. Et ses œuvres, ses pyjamas dessinés, sont devenus des œuvres d'art reconnues. Et il était là le soir au vernissage, à la halle, ils ont exposé, évidemment, j'ai exposé ça de façon artistique, un peu, pas trop conceptuelle, mais un peu originale, c'est-à-dire j'ai accroché les pyjamas et puis les slips, et ça fait une installation. C'est-à-dire pour un amateur d'art contemporain, vous verrez tout à fait la démarche qu'il y a derrière, c'est une sorte d'esthétisation d'objets du quotidien. Mais l'artiste était là, il a vu ça, il a voulu monter sur l'estrade, récupérer ses pyjamas, récupérer ses slips et les mettre. Non. Alors nous, on peut trouver bizarre sa démarche de dessiner ce qu'il aime le plus, enfin de vouloir porter ce qu'il aime le plus, de le dessiner et de le porter. Mais lui, il peut trouver quand même assez bizarre notre démarche d'accrocher ça à un mur et d'ériger ça en œuvre d'art. Donc qui est le fou, qui est le suspect là-dedans, c'est lui ou c'est nous? Alors ça nous permet de comprendre que la folie, c'est quelque chose de... ou l'anormalité, ou la marche, c'est quelque chose de totalement subjectif et de culturel, selon les époques, selon les peuples et selon les cultures et les moments et les personnes. On est fou, on n'est pas fou, et que on peut très bien renverser le jugement sur non seulement sur la folie, mais sur la valorisation de certaines personnes. Un héros peut être un héros dans une culture et être un idiot dans une autre. Un artiste peut être un artiste dans une culture, un artiste dans une autre.
Non, je dirais qu'une organisation sociale peut être tout à fait normale et acceptée et subie par une majorité de la population et pouvoir paraître quand même un petit peu absurde et irrationnel.
Mais on l'oublie.
On l'oublie, nous on l'oublie pas trop ici, mais voilà. C'est vrai qu'on l'oublie.
Oui, mais qui est-ce qui vient vous le rappeler? C'est justement des gens qu'on a mis dans la marge, ou qu'on a exclus, c'est eux qui viennent tout d'un coup nous renvoyer les excès de notre culture, ou les perversions de notre culture. Et de le comprendre, c'est-à-dire de le remarquer, de le comprendre et de l'accepter, je pense que c'est rendre une culture s'enrichirait, serait plus forte, plus tolérante, si elle acceptait ces phénomènes-là, justement.
Eh oui. Et oui, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose, Martine Luzardi, d'écouter deux employés de bureau, deux employés de banque, japonais donc. Hein, alors, ils se produisent pas tellement à l'étranger parce que ils ont leur boulot. Et, ils se produisent au week-end. Il s'agit de The Incapacitants.
Les oreilles libres. Avec c'était des Incapacitant. Donc les oreilles libres et détruites par les Incapacitant. C'était un live enregistré en Norvège en 2007.
En Norvège quand même.
Ah, j'ai vu Norvège. Mais je crois que c'est lié. Plus les, on a l'impression que plus les sociétés sont policées. Un jour dans une précédente émission, tu demandais pourquoi les Japonais étaient aussi férus de noise. Et j'ai l'impression à voir, c'était alors donc il y a le fameux Lasmaro qui est bien connu de tout petit alternatif qui se respecte, Lasmaro qui est un grand bruitiste devant l'éternel, enfin bref devant
qui on veut.
Je me demande si plus est-ce que c'est parce que plus est-ce que c'est, ça serait ça ne serait pas concomitant avec le polissage des sociétés. Plus une société est policée, présente une image lisse, propre, moderne, fonctionnelle d'elle-même, c'est-à-dire comme les pays nordiques ou le Japon, et plus certains artistes vont vers l'éclaté, le bruit, le sale.
J'ai une anecdote. Nous avions été voir Otomo Yoshide, un célèbre turntabliste. Peut-être on en reparlera après de l'idée de faire une programmation musicale à la Halle Saint-Pierre. Otomo Yoshide, donc un fameux musicien qui joue du tourne-disque et de la guitare très bruitiste, se produisait au Festival Banlieue Bleue en première partie d'un jazzman très célèbre dont j'ai absolument oublié le nom. Moi j'étais venu voir Otomo avec quand même une cinquantaine de personnes. Le reste de la salle était venu voir ce jazzman. Otomo fait un petit solo de guitare absolument assourdissant. Et la plupart des gens s'en vont, mais une dame dans les premiers rangs, à la fin du morceau, crie « It's horrible !» Et Otomo, il reprend sa guitare, il en met une couche, il pose sa guitare, il lance son disque, il donne des coups de pied dans la table, il était vraiment furieux, quoi. Et du coup, il fait un morceau juste et puis il s'en va. C'est-à-dire, le concert, pour nous, il a duré 30 minutes. Quoi. Même pas 25 minutes, on était dégoûtés. Tout ça parce qu'une dame s'était permis de crier « It's horrible ». Alors nous, on le rappelle quand même, Otomo. Il revient, il prend le micro, et il fait « Perhaps you think it's horrible, but it's a reality of Japan ». Peut-être vous trouvez ça horrible, mais c'est la réalité du Japon. Il se met à hurler. Puis il s'en va. Et je pense qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est une société policée, je crois... Au-delà de ça, le Japon, il me semble que c'est quand même... on voit les gamins, ça, la performance, il faut qu'ils réussissent. C'est dur, quoi. C'est une société dure. Je pense effectivement qu'il y a un rapport. Et c'était un peu ce que je demandais tout à l'heure. Est-ce que vous sentez cette pression pour l'homme du commun japonais? Est-ce que ça se retrouve dans les...
Vrai que le Japon est une société la performance, ouais, et la réussite fait partie des obligations et du jeu social. Et là, c'est une exposition avec des artistes d'art-brut, mais les organisateurs sont très soucieux de la réussite de cette exposition et de la perception aussi de cette exposition. Oui. Donc, on est dans deux schémas, différents. Il y a les artistes eux-mêmes et il y a ceux qui ont organisé cette exposition où c'est un projet artistique, un projet social, avec sa finalité qui est la perception de cette exposition. Pas seulement des artistes et de l'art brut, mais de cette exposition, de ce projet japonais en France et ensuite en Europe. Donc là, en effet, revient les motivations et la structure aussi de la société japonaise, qui est un modèle qui est celui de la réussite, du travail, d'une sorte de consensus, et où l'imprévu est quelque chose de dangereux, où il ne faut pas trop montrer ses émotions aussi. Et donc, chaque fois que qu'une culture va comme ça vers un excès, forcément, c'est obligatoire, il y a un espace où les positions inverses sont là et réussissent à se défouler. C'est normal. Et au Japon, donc forcément, le défoulement est aussi extrême.
Oui, oui. Ah bah effectivement.
Et on le voit dans le rock, on le voit aussi dans la façon dont les jeunes filles s'habillent, on le voit dans les mangas, on le voit dans l'érotisme au quotidien.
Les émissions de télé, je pense à
dans les émissions de télévision, voilà, tout ça.
J'aimerais vous poser une question. Peut-être qu'elle elle est un peu en parallèle ou en dehors. Vous me direz si c'est vous. Tout à l'heure, vous avez dit l'art brut est à la mode. Il est à la mode depuis quelques années déjà. j'avais déjà été voir des expositions, mais j'entendais déjà dire l'art brut est à la mode. Pourquoi il est à la mode? Pourquoi l'art brut est à la mode?
Pourquoi l'art brut est à la mode?
Est-ce que c'est comme un peu dans tous les milieux, entre guillemets, culturels? C'est-à-dire qu'après avoir épuisé le mainstream, le vampirisme commercial fait qu'on va vers les marges en espérant trouver enfin le dernier filon qui puisse...
Alors, il y a deux questions dans votre question. Pourquoi l'art brut est à la mode et pourquoi des gens, un public s'intéresse à l'art brut? C'est pas du tout la même chose pour moi. Moi, je m'intéresse à l'art brut depuis quelques années. Je suis pas précurseur, mais je m'intéresse à l'art brut et j'ai pas l'impression de suivre la mode. Et pourtant, je m'y intéresse pas depuis si longtemps que ça quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de mode maintenant.
C'est pas vous que je vous mets pas du tout.
Non, mais je veux dire, moi, je m'intéresse, mais depuis pas si longtemps que ça. Et j'accompagne pas la mode, mais je m'intéresse. Et j'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'art brut comme je m'y intéresse, mais depuis quelques années. Alors, et en même temps, maintenant, il y a un phénomène de mode. Alors, sur ces deux intérêts qui sont, à mon avis, d'origine quand même différente, l'art brut répond à des attentes. Que notre système social, notre système économique, notre système social, économique, culturel, enfin tout, notre société ne répond pas. Sur des questions de sens, la seule réponse qu'on nous donne pour tout, c'est consommer plus. Voilà. En ce moment, on parle peut-être des problèmes des retraites, des problèmes d'éducation. Donc, on va bidouiller des trucs pour que, en travaillant encore plus, on puisse quand même gagner un peu d'argent et tout. Mais dedans, on ne se pose pas la question, par exemple, de la façon dont on va travailler. Comment, en travaillant, le travail peut être perçu comme quelque chose de valorisant et pas comme quelque chose de... On peut être heureux en travaillant. Et puis, on peut ne pas l'être, mais il faudrait savoir pourquoi on n'est pas heureux en travaillant. Ce sont des questions qui sont beaucoup plus fondamentales. Enfin, les retraites, c'est fondamental, mais derrière ces questions-là se posent d'autres questions. C'est comment, dans notre société contemporaine, l'homme peut rester humain, qu'on ne le dépossède pas de toutes ses fonctions, de ses qualités humaines. C'est-à-dire continuer à ressentir des choses, continuer à pouvoir dire « je », ne pas dire « on », ne pas dire « nous », mais dire « je », c'est-à-dire de continuer à pouvoir exprimer sa propre subjectivité sans se sentir en permanence qu'elle est mise en danger. En danger par des problèmes économiques, mais par des problèmes de rapport aux autres aussi, comme si tout était un combat, il fallait lutter pour tout. Donc, l'art brut ne donne peut-être pas des réponses directes à ces questions-là, mais nous rappelle qu'il y a ces questions et que les réponses qu'on nous donne ne nous satisfont pas. Et que l'être humain est toujours en attente de réponses qui lui permettre de, en même temps, retrouver, pour moi, ces trois façons d'être au monde. C'est avec son intelligence, parce qu'on a une intelligence, c'est pour s'en servir, on est ça, on pense, mais aussi avec son cœur, c'est-à-dire ses émotions, on a des émotions. Et le Japon, c'est ça, c'est-à-dire ne pas exprimer ses émotions. Peut-être qu'il y a un moment où c'est plus possible de ne pas exprimer ses émotions, que je existe parce qu'il ressent des choses. Donc, il faut pouvoir les exprimer et de façon, je veux dire, individuel, et pas exprimer ce que le groupe exprime, de pouvoir être dans un groupe en étant soi-même. Et puis aussi de retrouver le corps, c'est-à-dire on est un corps, d'abord on est d'abord dans le monde, le matin on se lève, on est d'abord un corps qui ressent le froid, une mauvaise nuit, une bonne nuit, on est ça aussi, et que la société nous impose un corps qui doit être un corps en bonne santé, un corps toujours parfait, et que peut-être qu'on a envie de vivre un corps différent. Donc, l'art brut nous rappelle ces trois façons d'être au monde qui doivent s'équilibrer les unes avec les autres. Alors, il y a d'autres domaines que l'art brut, que l'art et que l'art brut, pour se poser ces questions et pour y répondre. Le rapport aussi, on va pas de l'individu par rapport à ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire la mort. On n'a toujours pas de réponse à la mort. On sait qu'on va mourir, on peut vivre plus longtemps possible, mais on n'a pas de réponse à ça. Peut-être qu'on n'en aura jamais. Mais la science essaye de donner des réponses à tout. Quand elle n'en a pas, elle dit c'est qu'elle n'a pas encore trouvé. Mais elle ne dit pas « je ne sais pas ». Elle dit « je ne sais pas encore ». Or, c'est peut-être pas satisfaisant pour l'individu de dire « je ne sais pas encore », donc on va essayer de vivre encore plus longtemps, plus longtemps, plus longtemps pour avoir la réponse, et peut-être que d'accepter de ne pas savoir et de chercher par soi-même et de ne pas attendre une réponse rationnelle, scientifique à tout. Or, l'art brut, c'est justement la non-science. C'est accepter que la science ne réponde pas à tout et que l'individu, à travers l'art, mais peut-être d'autres domaines, construit son propre monde pour compenser cette absence de réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse, et vivre sans la réponse et créer un monde où, du coup, la réponse n'est plus importante, mais on fabrique d'autres questions qui sont aussi importantes que la réponse. Et l'art, ce n'est pas une réponse. L'art, c'est un peu comme la philosophie, mais c'est une autre forme de quête, mais c'est un perpétuel questionnement sur ce que c'est que l'homme et être humain. Et c'est répondre, c'est je qui répond sur un autre mode. Alors, l'art brut, c'est, pour moi, c'est ça. Et après, il y a la mode. Alors, la mode, c'est, on rentre alors dans le système actuel, médiatisation, communication, marché de l'art, économie, et que en effet tout est épuisé. Alors c'est un nouveau filon, c'est là, mais ça m'intéresse pas. Je sais que c'est comme ça, c'est inévitable, mais c'est pas grave. Je veux dire, on n'empêchera pas que l'art brut rentre dans le marché de l'art. Ça sera comme tout le, comme toutes les modes éphémères, et puis l'art brut retrouvera c'est ce qu'il est vraiment, indépendamment des effets de mode.
J'ai une autre question qui peut paraître un peu admettons qu'un de ces créateurs vende quelque chose par le biais, je ne sais pas, d'un agent. Ou, bref, il le vend. Où va l'argent ? Quel est le rapport de cette personne à l'argent et où va-t-il, etc.
Alors, vous parlez, en fait, vous posez le problème de l'art, en fait, du marché de l'art par rapport à l'art brut et du rapport de la création, enfin de la création et de la, enfin je sais pas très bien quelle est votre question, parce que si est-ce qu'une œuvre, est-ce qu'un artiste d'art brut peut vendre? En effet, oui. il peut vendre. Après, vous pensez des gens qui n'ont pas la maîtrise de la, lorsque l'œuvre leur échappe, ils peuvent pas maîtriser tout ça, parce que le marché de l'art, c'est un système. Il y a l'artiste, il y a le galeriste, il y a le critique, et tout ça, c'est un petit milieu qui vit de l'art. Voilà. Alors, l'artiste d'art brut, là-dedans, quelle est sa place ?
Voilà.
En fait, la question. Alors, il y a artiste d'art brut et artiste d'art brut. Si on prend, par exemple, Dubuffet, qui n'était pas un marchand, il était marchand de vin, mais pas marchand d'art. Il a réuni toute sa collection, il en a mis un musée, il en a fait un musée. C'était inaliénable, c'est-à-dire on ne peut pas vendre les œuvres de la collection d'art brut. Donc ces œuvres-là sont protégées. On est dans un autre système, c'est des artistes qui produisent et des gens peuvent acquérir ça. Un galeriste, tout d'un coup, peut acheter ça et le revendre 3 fois plus cher. Il peut acheter une œuvre, on va dire 200, 300 euros et la vendre 5000 euros. Ah oui. Ça, c'est le marché de l'art. Je veux dire, tout est comme ça. Je veux dire, c'est pas que dans l'art. Là, vous posez une question qu'on pourrait poser dans un autre domaine, qu'on pourrait poser dans la médecine, qu'on pourrait poser pour tout.
Oui, je sais qu'elle a l'air un peu. Je sais qu'elle a l'air un peu idiote comme ça de prime abord, mais je voulais savoir si vous aviez eu le cas personnellement, si vous aviez un de ces artistes avait été confronté à ce genre de choses et si vous aviez eu des réactions, etc. Mais enfin, si c'est jamais produit.
Moi, je pense que ta question, c'était que tu demandais si la personne était hospitalisée, par exemple, dans un hôpital, et comme il est malade, donc il ne peut pas gérer son compte, son argent. C'était ça,
oui,
ta question.
Oui, et puis, quelle est sa
non, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, ouais. Les œuvres qui sont faites dans des ateliers d'art-thérapie, normalement, ça doit pas. C'est pas vendu. Ouais. Un médecin, un psychiatre qui aurait un patient qui crée des œuvres, le patient quittant l'hôpital ou le patient les lui ayant donné, s'il veut les vendre, c'est entre lui et sa conscience. Je veux dire, un artiste Un créateur donne les œuvres à un médecin qui va ensuite les vendre. Personne ne peut l'interdire. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. On n'est plus dans la morale, enfin, on est dans l'éthique là-dedans. C'est que fait le médecin ?
Ouais.
Que fait le, c'est une question entre lui et lui. Ce n'est pas interdit. Mais ça, on est juste uniquement dans le rapport d'un individu avec un autre individu. Est-ce qu'il est normal que des œuvres qui relèvent presque du miracle, parce que quelqu'un qui est dans des conditions terribles dans un hôpital psychiatrique et qui arrive justement à trouver des forces de reconstruction de son propre psychique, c'est-à-dire arriver quand même à vivre, et que cette œuvre-là est le produit de ça, quelqu'un entre en possession de ça et va le vendre. En effet, moi, j'aurais du mal à le faire, mais personne n'interdit. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. C'est la circulation des biens, et il y a des gens qui se font... Ça, c'est pas de la dans d'autres matières, dans d'autres domaines, ça serait de la spéculation. Il y a des gens qui se font de l'argent sur ça. Il y aura toujours des gens qui se feront de l'argent sur le dos des autres. On ne peut pas l'empêcher. C'est une question d'éthique.
Si je crois qu'il faut quand même rappeler que les créateurs dans l'art brut font leurs œuvres avant tout pour eux-mêmes.
Oui.
C'est ça. Donc,
Alors, ça leur est complètement égal. Mais il y a des histoires. Vous prenez Scotty Wilson, qui était un artiste qui habitait à Londres. Et il dessinait comme ça, il faisait des dessins, et un artiste et en même temps galeriste avait remarqué ça et l'a encouragé à dessiner, puis un jour il lui a fait une exposition. Bon, et Scotty Wilson vient à l'exposition et il voit, lui il vendait ses œuvres de temps en temps pas cher du tout, et puis il voit à la galerie des prix pour lui déments. C'est-à-dire que la folie était là, dans celui qui avait fait des prix déments. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne chez lui, il prend des dessins, il se met sur le trottoir d'en face et il les vend pour rien du tout aux gens qui étaient venus dans la... Alors, ben voilà, il a donné une leçon à tout le monde. C'est-à-dire que le galeriste a fait ça, il a voulu gagner de l'argent, mais tout compte fait, cette fois-ci, s'est fait avoir par l'artiste d'art brut qui, lui, s'en foutait totalement de gagner de l'argent, ça fait rien. Mais il avait trouvé la démarche, enfin, il avait trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Donc, de temps en temps... Il y a des leçons qui sont données par l'artiste même, ou l'artiste qui arrête de créer. Voilà. Mais on ne pourra pas empêcher ça. C'est comme ça. Alors, la force, justement, d'un artiste d'art brut, c'est que juste comme il ne crée pas pour l'autre, comme il ne crée pas pour... Il est assez étranger à la diffusion de son œuvre, à la reconnaissance ou à la valeur marchande de son œuvre. Si quelqu'un s'enrichit grâce à ça, il n'en souffrira pas. Par contre, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont des artistes, je veux dire, singuliers, qui créent dans les marges, qui aimeraient être connus, qui ne bénéficient pas du système actuel de l'art contemporain, où c'est quand même des réseaux, et qui souffrent de ne pas être montrés, de ne pas être connus, et qui aimeraient, bien que un galeriste s'intéresse à eux, fasse fortune sur leur œuvre, mais que soit reconnu aussi. Mm-hmm. C'est très compliqué. Mais il se pose en effet la question de l'œuvre et de l'individu, du créateur d'art brut, comment il est peut-être manipulé. Mais si on pense que ça lui est assez indifférent, le pire, c'est pas le sort que l'on donne à l'œuvre, c'est la souffrance de la personne qui se sent dépossédée. Or, bien souvent, les quelques anecdotes que j'ai racontées, par exemple, il y a un des artistes japonais qui avait l'habitude de ramasser des objets par terre. C'est un peu comme, c'est pas du fétichisme, mais c'est comme une sorte de pensée magique. Il ramassait des objets, puis il les mettait dans sa poche. Et puis il y a eu cette bactérie E. coli qui a fait que, dans l'institution où il était, on lui a demandé de ne plus rapporter des objets parce que ça pouvait être... Bon, c'était évidemment une peur poussée à l'extrême aussi. Mais ça pouvait peut-être amener des bactéries à l'intérieur de l'institution. Donc, il n'a plus pu le faire. Et les objets qu'il avait déjà ramassés, il s'est mis à les assembler ensemble et à faire... du coup, il a transformé ça. Lui, sa démarche, c'était de ramasser les objets. Comme il n'a plus pu le faire... C'est là où on voit le génie créateur. Il a transformé ça, cette impossibilité à ramasser, il a transformé ça en une autre pratique. Il s'est mis à faire des assemblages, à faire des objets pleins de poésie. C'est un peu comme des anagrammes. Il ramasse un objet, il les assemble ensemble et ça fait un autre objet. Ça faisait des animaux ou rien, juste des formes, mais très jolies, très poétiques. Et puis, il y a des gens qui l'ont vu faire ça et qui sont mis à ramasser des objets. Il allait lui donner. Il a arrêté de créer.
Bien sûr.
parce que c'était intervenir dans son processus créatif. Lui, c'était une histoire entre lui et lui. Ramasser des objets, il peut plus les ramasser, bon, il les met en forme, et tout d'un coup, quelqu'un vient et lui dit, tu vas faire comme ça. Enfin, c'était... On peut ne pas comprendre, parce que des artistes, justement, bien insérés socialement, qui vont dans des... où on leur apprend, ils vont dans des écoles, on leur apprend comment faire, ils sont dans ce processus de dialogue avec l'autre. Et lui, pas du tout. C'est justement ça, il ne peut pas. Et quelqu'un qui vient lui dire comment faire, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Non, il s'arrête parce qu'il ne peut plus. Ça aussi, je trouve que ce sont des leçons de vie formidables. Ça apprend le respect de l'autre, ça apprend à ne pas vouloir imposer à l'autre sa façon de voir et son schéma. Voilà.